faut pas aller visiter les personnes âgées. C'est une question de vie ou de mort. Pas prendre le risque d'entrer le virus davantage dans les résidences de personnes âgées.
C'est le grand souci de quiconque tient une résidence pour personnes âgées en ce moment. C'est le souci de nos dirigeants. C'est le souci de toutes les familles qui ont des personnes qui vivent dans des CHSLD ou des résidences pour personnes retraitées. Et d'ailleurs, c'est avec une personne qui est propriétaire d'un établissement du genre à Saint-Lambert, une résidence pour personnes âgées, que nous allons passer les premières minutes d'entrevue ce soir à l'émission en direct. Il s'agit de Mme Eva Dufault. Mme Dufault, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Dufault, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, comment vous réagissez d'entendre le premier ministre exprimer ses consignes par rapport aux résidences dans le genre de celles que vous tenez, alors qu'on constate qu'il y a déjà 520 résidences où la COVID est entrée?
Bon. Écoutez, d'abord, je me réjouis d'écouter chaque jour ces interventions parce qu'elles sont très importantes. Il a raison de parler de cette manière-là. En ce qui me concerne, au Castel, parce que moi je dirige la résidence de Castel à Saint-Lambert, on est une petite résidence, d'accord? On a à peu près 92-94 personnes. Depuis un mois déjà, nous on travaille sur ces mesures d'asepsie et de protection. Donc on a pris une certaine avance finalement sur la situation. Donc mon personnel a été formé aux mesures d'asepsie parce qu'on a anticipé beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'écoute ces recommandations, mais maintenant j'ai une réserve supplémentaire qui se présente. C'est-à-dire que il y a le confinement qui est nécessaire, qui est important pour sauver des vies, mais dans un milieu de vie comme la résidence Le Castel à Saint-Lambert, il y a aussi l'isolement qui peut impacter de manière négative nos résidents.
Et ça vous affecte de voir le confinement dans lequel les gens sont placés par obligation? Comment vivent-ils cette solitude forcée actuellement, vos résidents?
Ce qui a été plus terrible, c'était la décision d'interdire aux familles de rentrer dans le Castel. D'accord? Avant cette décision-là, on avait déjà pris des mesures de protection. Donc les familles nous ont suivies, elles ont été formidables, elles ont compris les mesures de précaution qu'on a prises. Mais à partir du moment où on nous a imposé la fermeture, l'accès aux familles, aux résidents, je veux dire, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que nous avons au Castel des personnes autonomes et des personnes semi-autonomes, avec des gens qui présentent des démences, des pertes cognitives. Ces personnes-là ont besoin de la présence physique de leurs proches. Nous, on travaille pour eux toute l'année, tout le temps. Mais rien ne remplace ce lien, on va dire, filial, familial, d'accord? C'est un lien qui est primordial pour ces gens-là. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, depuis donc plusieurs jours, le fait que les familles ne puissent plus rentrer au Castel, donc pour donner certains soins, et quand je parle de soins, ça peut être simplement le plaisir d'être avec un proche, ça c'est un soin, de partager un bon moment. C'est une forme de soin aussi. Donc, déjà, ça a eu un impact important sur nos résidents. Donc, on voyait déjà une espèce de tristesse, une espèce d'effet collatéral. Mais depuis, on a eu d'autres mesures à appliquer, comme lors des repas, on a dû suivre des organisations précises pour limiter le nombre de repas dans la salle à manger. Mais ça n'a pas été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se prépare à tout ça. Mais dernièrement, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu qu'on prenne une décision de confinement total. OK? Parce que j'avais un membre de mon équipe qui a été testé au Covid et on attendait les résultats. Donc, j'ai pas pris de chance, comme on dit. J'ai décidé de les confiner totalement. Donc, ça, c'était vendredi dernier. Parce que, dans l'urgence, j'avais pas d'autre moyen de réagir. Maintenant, ce confinement a été calculé, encadré. C'est-à-dire qu'on montait les repas, mais dans la journée, on faisait des visites.
Mais Madame Dufault, permettez-moi, vous avez bien fait d'y aller de façon préventive, parce que ce qu'on constate, ici comme dans d'autres provinces, d'autres États et d'autres pays, c'est que le délai entre le moment où la personne subit le test et le moment où on apprend le résultat du test, si vous attendez le résultat, le dommage est fait, il est trop tard.
Vous avez bien raison, monsieur. C'est pour ça que j'ai réagi tout de suite. Donc, c'est bien pour ça que j'ai réagi. Mais ce confinement, cet confinement total a un impact particulier. Déjà, bon, au Castel, ça s'est très bien passé parce que, je vous le dis, on s'est préparé que l'équipe est extrêmement dévouée et très proactive.
Mais le test s'est avéré négatif, le test de votre employé?
On a eu la réponse ce matin. Il est négatif.
Et donc, plusieurs jours, ça remontait à combien? Quand vous avez su la date, combien le délai entre le résultat?
Elle a été, de mémoire, été testée jeudi dernier. Et nous avons eu la réponse ce matin.
OK, donc c'est quand même plus vite que d'autres cas qui ont été portés à ma connaissance où on frôlait le 11, 12 jours, parfois 13. Voilà. Donc vous, c'est un 7, 8 jours.
C'est important de comprendre que tout de même, je comprends les délais qui parfois semblent
évidemment,
être longs.
Évidemment.
Mais je pense que le gouvernement, là, en ce moment, fait ce qu'il faut. Je pense qu'on a des équipes au niveau de la santé qui sont efficaces et qui font ce qu'il faut aussi. Ils font le distinguo parce que mon employée qui a été testée a été interrogée. Où est-ce qu'elle travaillait? Donc, ils savaient pertinemment qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait une RPA en attente, une résidence pour aînés en attente. Donc, je pense quand même qu'il faut reconnaître ça, même si ça aurait pu être plus court. Même si j'aimerais, moi, aujourd'hui, que mon équipe soit complètement testée pour vérifier si on n'a pas un porteur asymptomatique.
Êtes-vous nerveuse de ça? Parce que là, comme propriétaire d'une résidence, on le sait tous, ce sont les personnes les plus vulnérables.
Ah.
Et là, c'est entré dans 520 de ces résidences.
Alors,
je me mets dans vos souliers, là. Ça doit être stressant, là. Ça doit être épouvantable.
Je travaille avec 88 familles, puisqu'on a 88 logements, on a des couples, donc ils sont 94 résidents, à qui je parle régulièrement, d'accord, de la situation. Ma problématique, parce que les familles ont suivi, elles savent que depuis plusieurs semaines, on a engagé des choses qu'on nous avait pas demandé. On a pris de l'avance. Mais là, j'arrive à une certaine limite. C'est-à-dire que j'ai cette incertitude. On est une trentaine à travailler. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir accès aux tests pour vérifier si dans l'équipe, on n'a pas un porteur asymptomatique qui serait contagieux.
Est-ce qu'il y a moyen de faire tester votre équipe pour savoir si tout le monde est en sécurité? Avez-vous fait des demandes?
J'ai posé la question. Et je suis en attente de réponse. D'accord? Au niveau du gouvernement, c'est extraordinaire. Au niveau du CIS, en Montérégie, du centre de santé, je veux dire, on a des interlocuteurs qui écoutent et qui prennent nos requêtes. Donc là, je suis en attente de réponse.
Okay.
Parce qu'on a fait notre maximum au Castel. Donc on est un petit peu inquiet parce qu'on se dit, s'il y en a un de nous, on fait tout ce qu'il faut en matière de protection. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de cas.
Mais ça n'efface pas l'incertitude, ça n'efface pas le doute, même si tout le monde a tout bien fait.
J'ai deux doutes. J'ai ce doute-là et j'ai aussi la détresse psychique de mes résidents. D'accord?
Sentez-vous une dégradation? Sentez-vous une régression?
Alors, entre vendredi et aujourd'hui, certaines personnes, je veux dire, effectivement, commencent à montrer des signes. Elles arrêtent de s'alimenter, elles pleurent souvent. Donc j'avais pris la décision de monter les repas donc dans les logements suite à l'attente du résultat. Là, j'ai décidé avec l'accord du CIS de Montérégie de reprendre les repas parce que c'est un moment important dans la salle à manger. Évidemment, la distribution de repas se fera selon les recommandations du gouvernement. Hein, il y aura plusieurs services et peu de personnes.
Donc,
et
ça va remplacer un petit peu le manque de visite, que ces gens-là se retrouvent à une certaine distance les uns des autres.
Exactement. Moi, on a besoin, nous, de voir nos résidents tous les jours. On a besoin de vérifier qu'ils sont bien. Et eux aussi ont besoin de nous voir. Et surtout encore plus depuis que leur famille ne peut plus rentrer au Castel.
Mais Madame Dufault, vous êtes prise dans un méchant dilemme, là, comme probablement bien des gens. C'est-à-dire, où je regarde peut-être la situation de certaines de mes résidents se détériorer, en attendant qu'on mette fin aux mesures de confinement, où j'applique le plan de match à la lettre, puis quelque part, on dirait que même appliquer le plan de match à la lettre, ça ne suffit plus là pour vos résidents, là, pour vous. Là.
Actuellement, j'ai besoin d'aller plus loin dans la mesure où il me manque un élément important, mais ça, c'est la typologie du Castel. On a toujours travaillé avec les familles. Le Castel est un milieu ouvert. Là, j'ai un membre, finalement, la famille est considérée au Castel comme un membre de l'équipe. Là, j'ai perdu un élément important. J'ai perdu un support important. Même si les familles sont extraordinaires, elles téléphonent plusieurs fois par jour, elles font passer, parce que nous, on reçoit encore des petites choses qu'on peut intégrer, accueillir au Castel, on les désinfecte et on les monte chez les résidents. Mais ça suffit pas, la présence de la famille dans le Castel ne suffit pas. Donc moi, il faut que je trouve des moyens pour compenser cette absence. Là, j'ai, par exemple...
Qu'est-ce que vous souhaitez, Mme Dufault? Il me reste à peine peut-être une minute et demie pour compléter l'entrevue. Qu'est-ce que vous souhaiteriez là, dans le meilleur des mondes, malgré ce que nous vivons?
Mais écoutez, ce que je souhaite, ben là, je vais l'avoir, je vais pouvoir resservir mes résidents en salle à manger, on va s'organiser. Je souhaite avoir des bénévoles, mais des gens, si je fais rentrer des gens, il faut qu'on ait l'assurance qu'ils ne soient pas concernés par le Covid. Je souhaite aussi que mon équipe puisse être testée pour qu'on aille encore plus loin. Parce que là, on a tout fait pour protéger depuis plusieurs semaines nos résidents. Donc, j'ai deux inconnus. C'est le fait de savoir est-ce que l'un d'entre nous est un porteur asymptomatique. Je pense que ça va venir parce que le gouvernement a commencé à en parler là. Il commence à en parler, à modifier peut-être leur choix de test, l'orientation des tests.
Mais ce qui n'est pas évident, là, c'est que si quelqu'un d'autre a été contaminé dans votre établissement, c'est que... Puis là, je fais pas la morale à personne. J'écoute la situation, puis ça doit vraiment pas être évident de prendre une décision de favoriser des regroupements que vous jugez essentiels, même si on respecte une certaine distance. Si, dans le doute, là, tu sais, dans le doute ou peut-être que le virus est dans le bâtiment, là, ça pourrait être vraiment.
C'est bien pour cette raison que j'ai attendu le résultat du test avant de reproposer aussi.
OK.
De resservir les résidents en salle à manger.
Oui, une chance.
Je n'ai pas pris de risque. C'est ce que je dis. Hein. Au Castel, c'est zéro cas de COVID-19, quoi, si possible. Hein.
Est-ce que vous avez beaucoup d'employés? Vous, ça doit faire des bonnes journées. Comme propriétaire, vous êtes propriétaire de cette résidence-là depuis 2014. Là. À quoi ressemblent vos journées de travail, Mme Dufault? Là?
Vous parlez de mes journées de travail ou de mon équipe?
Les vôtres et celles de votre équipe?
Bah, les miennes, ça n'a pas d'importance. Je suis d'astreinte, je dirais 24/24, 7 jours sur 7 toute l'année. Mais ça, c'est moi et c'est mon outil de travail et c'est mon plaisir. Maintenant, mon équipe, j'ai la chance d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir aussi respecter chacun. Chaque personne peut encore prendre ses congés. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans une situation tendue et insupportable. Donc ça, c'est très bien. Mais d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, je voudrais les remercier parce que j'ai des gens qui viennent travailler, ils pourraient s'arrêter là, demain. Mais ils ont un tel dévouement pour les familles qui sont encore là. Et ils continuent à être là. Et ça, c'est quelque chose de très important dans une petite résidence comme la nôtre, d'avoir dans une telle épreuve, d'avoir ces témoignages de présence, c'est très très important. C'est comme le soutien des familles. Actuellement, là, on vit une épreuve difficile. On espère s'en sortir, on va s'en sortir, mais ce qui est important, c'est qu'on est ensemble. Même dans l'adversité, on reste ensemble.
En terminant, Mme Dufault, qu'est-ce qui est le plus difficile à accepter quand vous voyez votre clientèle là, qui a un air plutôt triste?
Écoutez, tout à l'heure, là, j'en ai visité plusieurs et tout ça. Ce qui est difficile à accepter, c'est que quand les familles m'amènent leurs proches, j'ai le mandat de lutter contre l'isolement. C'est la première chose qu'ils me demandent. Ils placent leur père, leur mère chez nous, ou des personnes autonomes viennent nous voir en disant « je ne veux plus être seule, je veux avoir une présence 24/24, je veux avoir la ressource d'avoir du soin, d'avoir des loisirs, d'avoir de la présence, d'avoir la sécurité. » D'accord ? Mmh. Et là, aujourd'hui, à cause de cette situation, on craint que ce mandat... comment vous expliquer ? C'est cette peur de l'isolement qui me terrifie. Pour les résidents, parce que quand ils se sentent isolés, ils se sentent abandonnés. Et quand ils se sentent abandonnés, ils commencent tout doucement à se laisser mourir doucement. Donc, je parlais, j'ai dit que j'ai peur du COVID-19 pour mes résidents, mais j'ai aussi peur de cette solitude qui peut, à petit feu, puisse les impacter.
Oui, je comprends, c'est
pour être positive, il y a des solutions. On n'est pas dans n'importe quel pays, on est au Québec. Les choses se présentent quand même bien. Je trouve que l'organisation est quand même plus que correcte. Tous les interlocuteurs que j'ai eus, que ce soit au niveau de ma mairie là, à Saint-Lambert, le maire, au niveau de la députée Ménard qui est sur notre territoire, que ce soit les gens, ils sont à l'écoute.
Les faites-vous sortir? Est-ce qu'ils peuvent sortir dans une cour, aller prendre quelques pas?
Oui, les très autonomes peuvent sortir sous supervision d'un infirmier, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas ensemble parce qu'on a la chance d'avoir un petit jardin, une fontaine en face de l'entrée.
Puis je vous bouscule un petit peu, puis pouvez-vous utiliser les moyens virtuels de communication, du FaceTime, du Skype?
Exactement, c'est ce qu'on va y penser parce qu'on a déjà eu des suggestions là avec des familles. On va voir si on peut installer d'un Skype dans le grand salon pour que les gens qui ont le plus de difficultés là, qui ont besoin de voir leurs proches,
oui.
puisse avoir un contact. Ça, on est en train d'y penser. C'est rien, c'est de la technologie. On va y arriver. Ça, pour moi, c'est pas grand-chose.
Madame Dufault, je vous remercie beaucoup de tout ce temps avec nous. Je vous souhaite bon courage. C'est toute une mission que vous avez par les temps qui courent. Bonne chance. Bonne chance et on va poursuivre. Vous serez peut-être curieuse d'entendre les appels. On va prendre des appels sur les situations de solitude dans les personnes âgées, la vôtre, oui, comme toutes celles qu'on a au Québec. Merci, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci, Madame Dufault. Elle est propriétaire associée de la résidence Le Castel à Saint-Lambert. Et je vous invite, peut-être avez-vous des membres de famille qui sont placés dans une résidence personnes âgées. Est-ce que vous réussissez à briser le sentiment de solitude qui les afflige, tel que Mme Dufault vient de nous le décrire? Peut-être êtes-vous une personne actuellement en résidence personnes âgées. Voyez-vous du monde? Faites-vous un bout de temps que vous n'avez pas vu de monde? Vous avez envie de nous parler quelques instants, nous faire part de votre état d'esprit? 514-790-9850, 514-790-9850. Et de partout au Québec, c'est le 1-866. La même suite, 790-9850. On vous revient tout de suite.
Oh, comme il est lourd, le temps qui s'appelle hier. Prends le 16e main dans ma tête, il est pour toi. Je promets que la journée qui s'en vient.
Alors, un petit blitz d'appel. La situation évoquée par la dame qui était avec nous en entrevue tout à l'heure, propriétaire, copropriétaire de résidence personnes âgées, solitude, est-ce que ça vous affecte personnellement? Est-ce que c'est le cas de votre grand-père, de votre père? Et des moyens pour la briser, cette solitude-là? Êtes-vous soucieux de voir que, comme la dame l'évoquait tout à l'heure, que de les voir se laisser, c'est dramatique là, d'entendre ça, de les voir se laisser mourir à petit feu. Elle l'a dit du bout des lèvres, mais c'est quand même la pensée qu'elle nous a exprimée. Alors, 790-9850, de partout au Québec, 1-866-790-9850. On part immédiatement. Linda, bonsoir, madame.
Bonsoir, Mario, ça va bien?
Oui, ça va bien vous-même?
Oui, moi, j'ai ma mère présentement en résidence. Et puis, le point que je vais apporter, ce n'est pas seulement la solitude, mais c'est l'inquiétude. L'inquiétude des personnes âgées qui sont habituées à voir leur routine, de voir les gens qui côtoient à l'intérieur et que là, présentement, qui sont confinés à leur chambre pour la résidence, à un moment, ils ont le droit de partager le déjeuner parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais quand arrive la période de dîner et de souper, que tu la passes confinée dans ta chambre et que tu fais que d'entendre des mauvaises nouvelles à la télévision. Je sais que l'information est bonne de les tenir au courant, mais je peux vous dire que ma mère, elle a développé des problèmes de santé causés par l'inquiétude de qu'est-ce qui se passe. Et souvent, au niveau des médias, on parle souvent de l'affectation au niveau des personnes âgées. Fait que la solitude, c'est un point, mais l'inquiétude, et quand même prend une grande importance.
Donc, ce que Mme Dufault nous exprimait, là, c'est un souci réel. Et Linda, rapidement, je vous demanderais, saviez-vous si la COVID est entrée dans la résidence où votre mère habite?
Elle n'est pas entrée. Ils sont confinés, ça fait 3 semaines. Puis pour moi, c'est le point que je comprends pas. C'est sûr que je suis de l'extérieur, je le vis pas. Mais pour moi, je me dis, si pendant 3 semaines de temps, ces gens-là sont été confinés, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a été diagnostiqué. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de transmission. Je pense qu'il y aurait des moyens d'améliorer le sort de ces personnes-là âgées en leur disant, venez partager votre dîner avec des heures différentes pour le dîner, des heures différentes pour le souper. Juste le fait de, pour les gens de pouvoir se
sortir de la chambre. Ben oui, ben oui.
Parce que on sait qu'ils n'ont pas cette force-là qu'on avait quand on était jeune. Fait que ça prend pas de temps que le tonus de ces gens-là, leur tonus devient en état amorphe. Et puis, ces gens-là vont avoir de plus en plus de difficultés, je parle pour maman, en tout cas, à se déplacer quand les choses vont revenir à la normale. Wow. Je crois qu'il faut quand même les stimuler dans cette période-là.
Vous avez tellement raison, Linda. C'est tellement de bons points, là. Puis c'est là qu'on se rend compte, qu'on pense, qu'on sait. Heureusement, je touche du bois. Ma mère n'est pas en résidence. Mais vous me faites réaliser à quel point les soucis sont nombreux et à quel point Mme Dufault avait raison d'exprimer ce cri du cœur. Je vous remercie beaucoup. Je vais tenter de prendre d'autres appels. Pas que ça ne sera pas intéressant de continuer. Quitte à se rappeler, mais je vais aller prendre d'autres appels. Puis restez à l'écoute. On va refaire d'autres tribunes semblables. Je vous remercie, Linda.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Ghislain, bonsoir. Oui, bonsoir, Ghislain.
Bon, c'est non, mon nom, c'est pas Ghislain. Hein.
Ah, c'est qui votre nom, vous?
Bon, là, j'ai demandé au gars que ce soit anonyme, puisque moi, je travaille dans le réseau.
OK, OK. Alors, je vous écoute, monsieur.
Moi, je vais l'expliquer. Moi, je travaille dans un CHSLD.
Oui.
Et, là, les gens là, qui sont à l'hôpital, qui sont écoutés, diagnostiqués pour COVID positif, là, le réseau le prend, puis ils font mettre dans les lits de CHSLD en prenant des étages sur les CHSLD qu'il y a dans le réseau. On rentre exactement le virus dans le réseau, même en prenant des étages confinés des autres. Ça va rentrer, ça rentre le virus dans le réseau des CHSLD, ça là.
Là, je suis pas sûr d'avoir compris comment ça entre, vous dites, avec les lits sur lesquels on déplace les patients ou quoi? Là?
On prend des gens de l'hôpital.
Oui.
Testé positif. On dit, OK, dans le CHSLD, on va libérer un étage. On va les rentrer dans le CHSLD.
On les ramène dans le CHSLD après l'hospitalisation?
Non, mais c'est pas des gens de CHSLD. Là, c'est des gens qui ont été testés à l'hôpital.
Mais là, vous me dites que... Mais là, les CHSLD ne servent pas de lieu d'hébergement pour personnes atteintes, là, à part si c'est des personnes âgées.
Exactement ça qui arrive. Là. Exactement ça. Ils prennent des étages. Là,
à quel endroit? À quel endroit, ça, monsieur?
Au manoir de Verdun puis au pavillon Champlain de Verdun.
Au manoir de Verdun et au pavillon Champlain de Verdun, vous me dites.
Là, ils vont rentrer des gens de COVID positifs dans ces centres-là en prenant des étages. Puis ils libèrent un étage puis ils disent, gars, on rentre ces gens-là pour libérer des lits d'hôpital. Mais ils rentrent le virus dans le CHSLD.
Ben écoutez, on va enquêter ça. Merci d'avoir levé le drapeau, comme on dit, monsieur. Merci beaucoup de nous en avoir avisé. On va faire nos recherches et noter. Nos journalistes sont là-dessus. Jacques, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Moi, je travaille pour une pharmacie. On fait toutes les résidences soleil à Montréal et sur Rive-Sud. Moi, ça me brise le cœur de rentrer là et qu'on peut pas voir les patients. Parce qu'on a plusieurs amis là-dedans, des personnes âgées. Moi, ce que je conseillerais, ce serait comme ça va être niaiseux de dire ça, comme une prison. Un téléphone d'un côté, une visière avec un téléphone de l'autre côté. Au moins, le monde pourrait se parler.
Est-ce pas des farces quand on est rendu à proposer un système qui est en vigueur dans une prison pour essayer d'amener un petit peu d'humanité? Non, mais je vous entends. C'est intéressant ce que vous suggérez, mais ça donne une idée de là où on en est. C'est incroyable.
Oui, ça fait peur. Et puis moi, vraiment, là...
Ça veut dire que nos personnes âgées sont pires qu'en prison quelque part en ce moment.
C'est ça. Ils sont confinés dans leurs appartements, comme j'ai parlé avec un monsieur. Et puis lui, il dit, écoute, Jacques, il dit, on n'est plus capable, on ne sait plus quoi faire. Ils peuvent même pas descendre en bas, ils peuvent pas aller manger à la cafétéria, il faut qu'ils emmènent leur manger à leur appartement.
Et on fait ça pour les protéger, mais en même temps, comme Mme Dufault l'a exprimé, c'est que, oui, on fait ça pour les protéger, mais on va peut-être... santé risque de détériorer d'une autre façon.
On les tue un petit peu.
C'est tout un dilemme, non? C'est comme la lutte... La prévention versus l'économie, il y en a pas de décision facile. Je vous remercie beaucoup de votre appel. Merci. Voyez, juste en quelques instants, là, en quelques appels, on fait le tour de pas mal de situations et on pourrait continuer encore un bout. On va faire une pause à l'instant même et on revient. Cette fois, on va changer de sujet. Mais plusieurs autres sujets, évidemment, que je vais vous proposer. J'en dis davantage au retour, mais Ray Lalonde est avec nous au retour et il sera question de quelques éléments d'information dans le monde du sport, à savoir comment on examine différents scénarios. On revient.